de la comparaison entre Noé et Abraham, qu'on avait laissé en suspens la dernière fois, en manque de temps. Je ne sais pas si j'aurai la place. Vous ne pouvez pas juste un petit peu ça.
Encore ?
Non, ça va. Voilà, tu vois. Avant cela, il y a quelqu'un qui, à la fin du cours, je crois qu'il venait de par là, je ne sais pas qui, m'a posé une question concernant la différence entre le tzaddik selon Noé et le tzaddik selon Abraham, que nous avons étudié la dernière fois. Une minute, que ça s'arrange. J'en vois d'ailleurs beaucoup qui n'étaient pas là la dernière fois. Qui n'était pas là la dernière fois? À part vous. J'ai nagé un petit peu pendant cette introduction, mais je reprendrai l'essentiel par la suite. Une minute. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose dont je suis allergique dans la salle. Bien, ce que nous avons étudié, c'est que la première fois que le terme de tzaddik juste est employé dans le Mikra, dans la Torah, c'est à propos de Noé. Et c'est pour nous expliquer que même en dehors d'Israël, il y a des tzaddikim, puisque Noé, ancêtre d'Abraham, n'est cependant pas d'Israël. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on étudiera d'autre part, Abraham et Isaac eux-mêmes ne sont d'Israël qu'a posteriori de Jacob. Réfléchissez à ça, il y a toute une discussion dans le Talmud à ce sujet, réfléchissez à ça, on retrouvera ça un jour. C'est quand Jacob devient Israël, qu'a posteriori, Isaac et Abraham font partie d'Israël. C'est-à-dire au fond, toute la préface historique depuis le premier homme jusqu'au moment où Jacob reçoit le nom d'Israël n'est là que, comment dire, pour, je vais le dire autrement, le récit choisi comme ligne de force le fait de nous raconter la préhistoire de cet événement où Jacob reçoit le nom d'Israël. Alors, a posteriori, Isaac est habilité, Abraham est habilité, Noé est habilité, dans la mesure où, a posteriori de Jacob, ils ont mené à Jacob. S'ils n'avaient pas mené à Jacob, on ne peut pas refaire l'histoire à l'envers, s'ils n'avaient pas mené à Jacob, on n'aurait même pas parlé d'eux. C'est-à-dire le point central, le foyer du récit, c'est la Torah révélée à Israël. Alors ça commence avec l'identité d'Israël. L'identité d'Israël commence lorsque Jacob reçoit le nom d'Israël. Il y a une identité préalable à l'identité d'Israël. Nous avons parlé de cela aujourd'hui, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on n'a pas eu le temps, c'est l'identité hébraïque. L'identité hébraïque qui émerge avec un ancêtre d'Abraham qui est Hever. Mais pas tous les Hébreux ne sont devenus Israël. Et nous verrons, c'est un thème qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais nous verrons parce que c'est très important de s'en rendre compte pour l'histoire contemporaine, que de cette identité hébraïque, préhistorique, antérieure à Abraham, mais surtout antérieure à Jacob, petit-fils d'Abraham, lui devenant Israël, eh bien, ont émergé, sont installés dans l'histoire des rivalités à Israël, et les rivalités à Israël qui procèdent de l'identité hébraïque antérieure qui n'est pas habilitée à être Israël, ces rivalités-là sont les plus terribles qu'Israël porte, parce qu'en vérité, ces rivalités apparaissent dans toutes les lignées humaines, mais centralement dans les lignées issues de la famille d'Abraham et qui ne sont pas Israël. De la famille d'Abraham, il y a 6 lignées qui ne sont pas Israël, mais des anciens Hébreux qui ne sont pas redevenus Hébreux, qui étaient amers dans l'exil de Babel, c'est ce que nous avons étudié aujourd'hui, eh bien, ils procèdent des rivalités les plus terribles. C'est un peu, je vais faire un diagnostic un petit peu agressif, si vous voulez. C'est, nous vivons quelque chose d'analogue à la fin de chaque exil. Lorsque les Juifs de l'exil, au moment où il y a le retour, ne veulent pas participer du retour, ils s'instaurent dans cette identité de type araméen, les Hébreux de l'exil de Babel, qui ne voulaient pas revenir en Israël. Le modèle, c'est un des frères d'Abraham, Nahor, qui a fondé une lignée, Bethuel, le père de Laban, et comme nous le savons par les sources talmudiques et du Midrash, Laban, c'est le pire ennemi de Jacob. Le Laban, Bikesh, Lahakor et Akol. Vous vous rappelez de ça? Ça s'étudie de d'autre part. Donc tout cela est déjà vécu dans la plus haute antiquité, et cela nous sert de modèle, de paradigme, comme on dit en français, pour mieux comprendre cette histoire mystérieuse qui est l'histoire du peuple juif au milieu des nations. Il y a une sorte de carte d'identité préalable, de carte d'identité préhistorique, si j'ose dire, qui nous est racontée dans l'histoire de cette préhistoire des patriarches. Le point précis que je voudrais étudier aujourd'hui, c'est précisément la nature de cette identité hébraïque qui ressurgit avec Abraham. Elle est bien antérieure à Abraham, puisque Abraham n'est qu'un des descendants de Hébert, Hébert, l'ancêtre des Hébreux, est lui-même descendant de Shem. Et nous n'aurons d'ailleurs la possibilité que de voir un des aspects, ou quelques-uns des aspects, de l'identité hébraïque. Mais c'est cette identité hébraïque qui habilite l'identité Israël. Encore une fois, il y a un décalage. Ce ne sont pas deux ensembles qui se recoupent absolument. L'identité hébraïque a été plus large que l'identité Israël, mais seulement l'identité Israël, l'identité hébraïque, se retrouve à chaque fin d'exil. C'est ce qu'il faut mettre en évidence, c'est lorsque Israël va se constituer en nation. Et c'est là que la Torah va force de loi. Jusque-là, elle ne prend pas force de loi, force d'obligation, même pas pour les patriarches, parce qu'ils sont encore des individus. Cela, rappelez-moi si jamais ça m'échappe, la notion de mitzvah, de Torah comme commandement, obligation, la tzet midechova, une obligation à accomplir pour légitimer, l'identité Israël, à la liste Torah, ne prend force de loi que lorsqu'Israël est une nation, que lorsqu'Israël est un clan, que lorsqu'Israël est une collectivité, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, et c'est, Romrim, c'est officialisé, plus à ce moment-là, au Sinaï. C'est au Sinaï qu'il y a Gochpanka, que Israël, devenu nation à la sortie d'Égypte, reçoit la Torah sous forme de loi. Et alors quelqu'un m'a demandé la fin du cours dernier, je ne sais pas si c'est nécessaire que je revienne, s'il n'est pas là, je crois qu'il n'est pas là. Alors, ce n'est pas la peine, c'est une question importante, mais ça nous prendra du temps. Je veux revenir sur un des points de la différence entre Noach et Abraham, qu'on n'a pas eu le temps la semaine dernière, et c'est un sujet extrêmement important, pour comprendre la différence de tzaddik, de l'être juste chez les nations, qui a pour modèle Noach, et chez Abraham, et en Israël, qui a pour modèle Abraham. Et en fait, la différence à laquelle on est habitué à penser spontanément, c'est que le juste en Israël est défini d'après la Torah, l'accomplissement de la Torah, alors que le juste chez les nations est défini d'après la bonne volonté morale. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont un homme de bonne volonté chez les nations considère la table des valeurs du bien et du mal, cela dépend de son ethnie, cela dépend de sa culture, cela dépend de son éducation, ça dépend de sa sensibilité, mais au bénéfice de la bonne foi, eh bien, quelle que soit sa table des valeurs, s'il préfère le bien tel que lui se le définit au mal tel que lui se le définit, c'est injuste. C'est l'attitude de la volonté qui consiste à préférer le bien et le mal, la volonté bonne, mais par rapport à une table de valeurs, il faut une loi. Eh bien, cela, c'est injuste chez les nations. Il n'est pas nécessaire que cela soit, que ça se réfère à la table des valeurs de la Torah, puisque cela n'est révélé qu'en Israël, qu'à Israël. Il y aurait une injustice de fond, une injustice blasphématoire, que Dieu ait créé une humanité en ne réservant qu'à une toute petite minorité, privilégiée, protégée, complaisance, masopanim, comme on dit en hébreu, la possibilité d'être sadique. Et il y aurait vraiment une injustice colossale que l'humanité entière serait condamnée à abaddon en hébreu, le mot français abaddon, l'abandon, vient de abaddon, en tout cas c'est, ça ressemble, abaddon là, abaddon, et comment il m'a dit, très petit,
perdition,
par nature. Il ne s'agit pas du tout de ça. N'importe quel homme, au bénéfice de la bonne foi et de la bonne volonté, est appelé tzaddik. Et même, c'est les goyim qui sont appelés tzaddik avant, dans l'ordre historique, avant être tzaddik en Israël. Alors, tzaddik selon Abraham, tzaddik en Israël, on a l'habitude de dire la table de valeur étant la Torah. Mais, ça ne suffit pas comme définition. Je voudrais. Vous demander d'étudier cela en se référant à ce sujet. La différence entre le tzaddik selon Noir et le tzaddik selon Abraham, comme problème théologique de fond, le salut est-il possible chez les nations, même en dehors de la Torah? Je pense que c'est clair. Je parle pour les juifs qui sont habitués dans leur milieu à entendre des fois des énormités comme il n'y a pas de salut chez les goyim. Le contraire de ce que dit l'Église. Hors de l'Église, point de salut. Alors on leur répond, point de salut dans l'Église. Qui reste clair, c'est clair. Ce qui est complètement faux. Eh bien, on va prendre quelques versets. Et nous allons étudier le statut d'un des ancêtres de Noir, chez qui on trouve la même expression de la Torah pour le définir comme tzaddik, et à Elohim, et à l'air noir. Ça, on va le prendre d'abord chez Noir. Je vous donne les références. C'est le verset, je crois, chapitre 6, verset 9, Machoukazé, tout de suite. C'est le chapitre 6, verset 9. Alors, prenez, chapitre 6, verset 9. Voilà comment Noir est défini comme tzaddik. Et à Elohim, et à l'air noir. C'est la fin du verset 9. Et vous verrez, enfin je vous cite là très rapidement un enseignement des commentaires. Prenez les trois dernières lettres des trois derniers mots. Les dernières lettres des trois derniers mots. Mem, Kaf, Het. Alors en particulier le Baal HaTurim, si je me souviens bien, met en évidence que ça fait apparaître le mot Chacham. Ça veut dire Noir se relie à la Torah en tant que sagesse. Il n'y a pas encore cette notion de mitzvah qui ne sera propre qu'à Israël et encore lorsqu'il sera à partir du Sinaï. C'est-à-dire les patriarches vivaient selon la Torah, mais c'était leur mida, leur manière d'être. Et ils ne vivaient pas selon la Torah dans cette espèce d'attitude religieuse qui consiste à savoir qu'on a un devoir à accomplir pour être authentique. Est-ce que j'ouvre une parenthèse ici pour éclairer cela? Parce que je sens qu'en français, ce n'est pas suffisamment clair, en tout cas de la manière dont je le dis. C'est-à-dire que la Torah s'adresse à l'individu à travers la collectivité. C'est quand l'individu entend la Torah à travers la collectivité que la voix de la Torah prend le ton de l'obligation. L'obligation de quoi? Vous savez, dans la philosophie générale, le problème du fondement de la moralité, du fondement des valeurs morales, c'est un problème extrêmement difficile. J'en ai parlé une fois. J'ai étudié ça dans les études de philosophie que j'ai pu faire. À peu près chez tous les philosophes que j'ai étudiés, il y a la même attitude. Ça consiste à réduire la notion du bien à une autre valeur, comme si on ne savait pas, en philosophie générale, fonder ce qui fait que le bien est le bien. Lorsque j'entends la voix de ma conscience dans la perspective du devoir à accomplir pour faire le bien, qu'est-ce que j'entends? Alors, là, j'entends la voix de quoi ? Alors, il y a des tas de systèmes philosophiques qui nous disent, les uns, la voix de la société. C'est l'intérêt de la société qui se fait entendre à moi sous forme de cette obligation, de devoir. Je suis obligé de... Et je le ressens, ce sentiment du devoir que Kant a beaucoup analysé. Et bien d'autres vous diront, non, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. Et le bonheur, c'est quoi ? Et en général, l'école la plus connue, c'est que le bonheur, c'est le plaisir. Et puis d'autres, plus pragmatiques, disent, non, c'est l'utilité qui est le bien. Et c'est toute une série de systèmes de ce genre. Et vous avez même des systèmes religieux qui vous disent, oh, c'est ce que le rabbin vous dit qui est le bien. Mais j'ai dit ça intentionnellement, comme ça, en marchant sur des œufs de Pessah. Mais c'est comme si les philosophes, y compris les théologiens, ne sauraient pas fonder c'est l'accent de la voix de quoi qui parle dans le devoir, qui m'oblige. Et puis c'est corollaire à un deuxième problème. Qui en philosophie n'a pas de solution. Oh, il y en a beaucoup des problèmes de ce genre. C'est pourquoi notre manière d'exister, c'est d'exister dans le temps. Le philosophe qui a le mieux posé le problème, qui a le mieux caractérisé, c'est Bergson. Il dit qu'il y a une perception du temps par la conscience humaine qui est la durée. Et pourquoi notre manière d'être, ça consiste à exister dans la durée. C'est de lui cette formule et de ses maîtres, le Cuvier peut-être, je ne sais plus, qui disait « Nous n'existons que le temps que nous existons. Nous existons que le temps. » Et on voit très bien que l'élan de survie, c'est de survivre encore un instant. Et il y a ces aberrations de la médecine contemporaine, l'acharnement thérapeutique, qui consiste à ajouter une seconde à une seconde, même au prix des pires souffrances. J'ai vu des agonies dans les hôpitaux israéliens, c'est un scandale. Comment ces petits infirmiers font souffrir ces agonisants avec des masques impossibles d'oxygène, je ne sais pas comment on fait ça, pour ajouter quelques secondes alors que quelqu'un est en train d'agonir, que le rabbin est là, qu'on pourrait très bien le laisser tranquille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je referme la porte. Et alors, c'est très lié. Les philosophes ne savent pas assigner une fidélité à la durée, parce qu'ils ne savent pas non plus assigner une finalité au devoir moral. Et la réponse que la Torah donne, et il faut l'étudier pour elle-même, c'est ceci. Nous sommes créés dans l'existence en vue de mériter l'être absolu. Et il nous faut le temps de mériter l'être absolu. Et on nous divise la tâche, la difficulté qui est énorme, mériter d'être. À travers tout le temps de l'existence et puis à travers le prisme de 613 mitzvot. Chaque mitzvah réussie, on acquiert un point d'être. Et puis, il faut du temps pour ça, la durée de l'existence humaine, parce que la finalité du devoir moral, c'est de mériter d'avoir été créé. Et alors, il ne s'agit pas du tout de telle ou telle discipline philosophique ou religieuse, théologique même, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Le devoir, c'est le sentiment qu'il faut mériter d'avoir été fait exister, d'avoir été créé. Je clairerai ça très rapidement, je ferme la parenthèse. C'est la grande différence entre une morale religieuse et une morale laïque. D'ailleurs, les morales laïques sont dérivées d'une morale religieuse. Au fond, les laïcs qui croient dans la morale religieuse, mais en enlevant Torah Min HaShamayim, en enlevant le fait que ça vient de la Bible et que c'est révélé. Il y a une espèce de mauvaise foi intellectuelle, mais enfin, on peut leur pardonner ça. L'essentiel, c'est qu'ils soient moraux. Et c'est ceci. Dans une morale laïque, une faute, c'est grave, mais pas plus. Dans une morale laïque, une bonne action, c'est bien, mais pas plus. Dans une morale religieuse, on a le sentiment profond que ça met en jeu la destinée. Que faire une faute, eh bien, non seulement c'est grave, c'est un désordre, et tout désordre est grave, mais que ça engage le sort du sujet de la moralité, et corollairement pour le mérite. Est-ce que c'est clair, ce jeu? Donc il y a une tonalité radicalement différente. Même si le comportement ressemble, ça n'a rien à voir. Et c'est pourquoi les rabbins nomment civilité, politesse dans le sens grec, nimousim, okay, des règles de civilité, la morale laïque. Alors que la morale vraiment, ça c'est le derrière de la Torah. C'est très différent. C'est pas bien de faire ça. Pas plus. En Afrique du Nord, on disait c'est pas joli. Ou bien c'est bien de faire ça. Mais pas plus. Et pourtant, l'homme moral de la morale laïque sent bien qu'il y a encore autre chose. Mais il y a une sorte de panique qui s'arrête là. Une sorte de panique, comment? Si c'est vraiment sérieux, alors Dieu existe. Et pourquoi il y a cette panique? Parce que si c'est vraiment sérieux que Dieu existe, il y a un jugement, alors c'est la panique totale. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À quel point il n'y a aucun dialogue possible entre ces deux univers intellectuels. Les uns tombent dans le légalisme de la convention sociale, fut-elle celle qui est votée à la Knesset, et puis les autres, c'est la valeur morale vraiment. Et ça n'a rien à voir, même si ça ressemble. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça ressemble? C'est que c'est pas la même chose. En tout cas, pour revenir au sujet, il est bien évident que la Torah, ça il faut le retenir, ne prend force d'obligation qu'à travers le fait qu'elle s'adresse à l'individu membre d'une collectivité. Et pourquoi? Et là, il y a un sentiment religieux, métaphysique, très différent des religions du salut personnel. Parce qu'il s'agit du salut de l'humanité. Or, l'humanité est une collectivité. Israël est délégué pour assurer, enfin prendre sur lui, non pas, comme diraient les théologiens chrétiens, sur la croix, parce que ça, il suffit qu'on mette une croix dessus, mais en tant que collectivité, c'est un peuple à qui est délégué le problème de l'universel humain. Un individu n'est pas dans le cas de pouvoir être le délégué de l'humanité. C'est pourquoi, est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est pourquoi la Torah s'adresse à Israël comme peuple. Elle ne s'adresse jamais à l'individu comme individu, sinon à travers l'identité du peuple. Et c'est très différent que, par exemple, une religion comme la religion chrétienne, où c'est un individu qui est présenté comme le levier du salut, et la communion avec cette histoire individuelle fait participer au salut. Et pour la Torah de la Bible hébraïque, ça va strictement rien avoir. Jamais Dieu ne s'adresse à un tel, ou un tel. Fut-il le plus exemplaire des justes d'Israël. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Et alors, pourquoi il en est ainsi? Eh bien, parce que, et c'est aussi le propre de toute créature en Israël, dans l'humanité en général, c'est-à-dire nous naissons avec un projet d'identité à atteindre. Et je prends l'exemple privilégié d'Israël. Nous naissons comme Jacob, avec le devoir de devenir Israël. Or, toutes les promesses faites à Jacob concernent un Jacob devenu Israël. C'est-à-dire que l'impératif de la mitzvah formellement signifie que nous devons faire coïncider notre identité individuelle avec le modèle qui est Israël. Et dès que l'identité individuelle coïncide avec l'identité du modèle Israël, alors les promesses s'accomplissent. Le problème, c'est pourquoi il faut mériter l'accomplissement des promesses. Ce qu'il faut mériter, c'est d'être celui à qui la promesse a été faite. Et dès qu'on devient celui à qui la promesse a été faite, elle s'accomplit. Et ça, chacun dans sa vie individuelle peut l'expérimenter. Pourquoi on a tellement prié, et c'est subitement un jour de l'année que ça s'accomplit, pourquoi pas avant, et pourquoi pas il y a un mois, pourquoi pas il y a un an. Il y a tout un faisceau de conditions de l'accomplissement de la promesse qui nous dépasse, dans la réalisation nous dépasse. Subitement, une porte s'ouvre. Subitement, une porte s'ouvre. Et énormément de prières qui assiégeaient cette porte se réalisent. Et pourquoi maintenant et pas avant? Est-ce que c'est clair ce sujet-là? C'est un peu mystérieux, c'est un peu mystique, disons. Ça me rappelle une histoire des chassidim. En tout cas, pourquoi maintenant et pas avant? Il faut que ça se réalise là, que je suis devenu sur ce point celui à qui ça a été promis. Est-ce que c'est clair? Vous voyez, les promesses sont faites à Jacob, mais à une condition simple, qu'il devienne Israël. Et comment il va devenir Israël? Par la Torah. Et alors c'est le verset, Torah tivana de Moshe, Moshe akila tiarako, l'envie de quoi? De devenir Israël. Ça c'est un petit chidouche, mais enfin c'est clair. Alors cette histoire chassidique, c'est qu'un jour, il y a un tzadik qui voulait rentrer faire mincha dans la chapelle. dans le Betaknesset de sa yeshiva. Et puis, il arrive à la porte, et puis il ne peut pas rentrer. Et puis deux fois, trois fois. Alors ses élèves lui ont demandé, qu'est-ce qui arrive? Il dit, je ne peux pas rentrer, c'est plein de prières. C'est plein de prières qui ne sont pas montées. Alors ça empêche, il n'y a pas de place. C'est-à-dire toutes les prières sont entendues, chomeart et final. Mais elles ne sont exaucées que si précisément la porte s'ouvre. Mais qu'est-ce qui fait que la porte s'ouvre? C'est je suis celui à qui on a donné la clé. Tant que je ne suis pas celui à qui on a donné la clé, il n'y a pas de clé. Bon, c'est clair, je alors ça nous dépasse. C'est-à-dire, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce que ça n'arrive pas? En général, dans les temps où les juifs sont des juifs et les rabbins sont des rabbins, on demande au rabbin et c'est lui qui explique. Est-ce que ça tu peux prier? Est-ce que cette prière je peux faire? Est-ce que ça c'est pour toi? Et puis la règle est absolument d'expérience individuelle. Ce qui va pour l'un ne va pas pour l'autre. Il y a des biens dont on ressent le manque qui peuvent être objets de prière pour l'un et pas objets de prière pour l'autre. Et ça, c'est une chorma que certains rabbins ont. C'est pourquoi la halakha est que si on veut demander quelque chose de particulier en dehors de la prière de la communauté, où en principe tous les manques sont définis, alors il faut demander à un rabbin qui sait prier. En général, on appelle ça des rabbins miraculeux. C'est des rabbins que c'est un miracle, que c'est un rabbin. Pour revenir au sujet, on va déjà comparer ça. Je le tiens d'un de mes maîtres. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de Shushani. Si j'ai envie de dire quelque chose, alors c'est lui qui disait ça. Est-ce que c'est lui ou est-ce que je crois que c'est lui? C'est le rabbin Abraham Epstein, un des deux. Et alors, les deux mérites qu'on les cite. Mais il disait ça de manière très, très, très sérieuse. Il y a des rabbins que c'est un miracle qu'ils sont rabbins. Bref. Et alors, on va comparer deux versets. Ce verset de Et Elohim Italer Noir et un verset à propos d'Abraham qui doit être, je vais vous dire tout de suite, au chapitre 17. Verset 1. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Voyez Abraham Betishim Shana Betishar Shanim. Et Abraham, vous y êtes? Chapitre 17, verset 1. Abraham Betishim Shana Betishar Shanim, et Abraham fut âgé de 99 ans. Vous devinez qu'il y a ici un chiffre significatif, je ne veux même pas dire symbolique, ça dépasse. Ça se réfère aux différents niveaux de mérite qu'Abraham a acquis, et donc juste avant la fin. Le niveau top, c'est 100%. Donc il est arrivé là où il est arrivé en mérite. Vayera Hachem et Abraham, et Hachem, tu es bien Hachem, s'est révélé à Abraham, Vayomerela, et lui dit, Ani El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant, Ithalech Lefanai, marche, conduis-toi devant moi, Vehei et Tamim, et sois intègre. Alors on va comparer juste une expression des deux versets. Chacun des deux versets doit être étudié en détail. Pour Abraham, c'est Hachem qui s'adresse à lui et lui dit « marche devant moi, devant ». Alors pour Noir, il s'agit d'Elohim, et le verset dit « Eta Elohim, ita lech Noir ». Avec, à côté de Elohim, Noir marchait. Il y a donc deux différences. Pour Noir, et il y a un commentaire très dur à ce sujet, mais on va l'étudier surtout à propos de Hanor, un ancêtre de Noir, où la même expression est indiquée. Je vous donnerai la référence immédiatement. Alors pour Noir, il est avec Dieu. Et le commentaire ajoute, et pas avec les hommes. Il y a des tzadikim comme ça, qui se retirent de la relation avec les hommes pour se consacrer à la relation à Dieu. C'est une forme de tzadik. Si vous connaissez des... En milieu juif, c'est pas facile à diagnostiquer, mais en milieu chrétien, c'est la vocation monacale, la vocation du moine qui se retire de la cité et pour être avec Dieu. Et il y a une grandeur dans cette vertu. Et puis, il y a beaucoup de monastères qui forment leurs fidèles pour ensuite entrer dans la cité et aider les hommes. Mais l'échec, c'est quand on se prépare pour se préparer. Je ne sais pas si vous voyez quelle est l'image. Je vais être méchant. Je vais vous donner une image des yeshivot. On s'est demandé une fois pourquoi dans les yeshivot on se balance tellement. Alors il y a une réponse qui a été donnée qui est très méchante d'ailleurs. Et voilà, parce que halacha, c'est halicha. Alors vous dire, je marche. Et donc comme je reste sur place, en fin de compte, eh bien, je m'en balance. Ça veut dire, je me prépare. Mais je ne fais que me préparer. Bon, ça c'est l'échec. Ça ne veut pas dire que tous les gens des yeshivot sont comme ça. Mais ça me rappelle une image que j'avais vue dans le dictionnaire Larousse, il y a très très longtemps, j'étais enfant, il y avait un supplément illustré. Le dictionnaire Larousse à l'époque était édité mois par mois. Il y avait un supplément illustré sur l'actualité et on voyait, c'est une image de la guerre de 14-18. Vous voyez de quel ancêtre je vous parle. On voyait le roi d'Italie, Emmanuel, je ne sais pas combien, il se préparait à entrer en guerre du côté des Alliés contre les Allemands. C'était la Première Guerre mondiale. Alors on voyait une meule où on aiguise un couteau. Et on voyait un grand sabre en filigrane, puis il restait un tout petit morceau de lame, dit « je me prépare ». Oui, après, ça c'est l'échec. L'échec du tzaddik, qu'on va étudier en détail avec Hanor. Mais la deuxième différence est encore plus forte. Être tzaddik à côté de Elohim, Dieu créateur du monde, selon les normes, selon les critères de la sagesse naturelle. Noach et Haram, mais par rapport à la nature, par rapport au Dieu créateur, il y a une morale naturelle, et la sagesse de cette morale naturelle, c'est à peu près ce que j'ai appelé le juste laïque. Noach n'est pas laïque, il sait qu'il y a un créateur. Mais un peu de cette sorte, c'est-à-dire la conformité à un ordre des choses. Vous voyez que finalement, les Grecs, à leur manière, les Romains, à leur manière, n'ont gardé comme notion de la moralité que cette notion des normes au fonctionnement des phénomènes naturels. Ils appellent ça la morale naturelle. La morale naturelle. Vous voyez l'idée de norma. Et alors, normal, ça veut dire naturel, conforme au comportement naturel. En fin de compte, c'est la même pente que le naturisme. Mais ça n'a rien à voir avec la morale qui transcende les instincts et les tendances de la nature humaine. On négocie, bien sûr, ce conflit entre les tendances et les instincts, mais pas du tout de la même manière. Je veux dire, le paradoxe, c'est que même les laïcs ont une âme. Et, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et alors, ils entendent la voix du Créateur, mais à travers un mastic call. Qu'on appelle ça ?
Silencieux.
Un silencieux. Alors, en tout cas, c'est Eta Elohim Kader Noir, alors que c'est Hachem qui va demander à Abraham, marche devant moi, annonce-moi et invente ce que j'ai à dire pour que je puisse le dire à ceux qui t'auront écouté. Et c'est ça le secret d'Israël. Pourquoi Israël a été choisi pour témoigner de la Torah ? Parce qu'Israël était capable de, je vais dire un mot dur, de réinventer la Torah, même si elle n'y était pas révélée. Ouais, c'est clair. Vous savez, il y a un grand mythe chez les philosophes grecs concernant la connaissance, que la connaissance est toujours une reconnaissance. On ne pourrait pas connaître si on ne savait pas déjà. Alors on reconnaît une connaissance qu'on avait et qui s'était perdue quand on est sorti de la caverne. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Eh bien, il y a pris quelque chose de cet ordre dans le Midrash qui dit que Israël avait la Torah et puis c'est pourquoi il est capable de la comprendre. Avant même qu'on la lui révèle, il l'avait. S'il ne l'avait pas, si j'ose dire naturellement, non, je ne veux pas dire naturellement, c'est faux. S'il ne l'avait pas dans son âme, il ne pourrait pas la comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il y a qu'Israël qui comprend la Torah. Qui la comprend vraiment en tant que Torah Lishma. Lire la Bible, comme on lit l'Iliade et l'Odyssée, ça c'est accessible à n'importe qui. Mais, même dans les universités hébraïques. Mais étudier la Torah, cela, eh bien, finalement, vous avez remarqué ça qu'avec les juifs, ils peuvent être rabbins. C'est pas une blague. En tout cas, ça a été une blague. C'était une blague pendant Vichy. J'ai entendu une fois un ami de classe me dire c'est terrible, les juifs sont partout. Même les rabbins, c'est tous des juifs. Bon, en tout cas, pour revenir au sujet, il y a une sorte de. Le Midrash dit que chaque enfant d'Israël, quand il est dans le sein de sa mère, connaît la Torah. Et puis, au moment où il naît, il y a un ange qui vient lui fermer la bouche. Et c'est la raison pour laquelle la commissure des lèvres a la trace des doigts de l'ange. Bon, objection, c'est vrai aussi chez les goyim. Mais ça, c'est pour tromper l'ennemi. Il y a quelque chose là que Israël possède en lui le pressentiment de la Torah. C'est pourquoi ça avait une identité hébraïque. Et quand le Midrash dit qu'il faut être Israël pour comprendre la Torah, eh bien ça veut dire qu'il faut être hébreu. Parce que figurez-vous, et personne ne s'en rend compte, la Torah a été révélée en hébreu. Et c'est vrai, et chaque fois que je dis ça, on ne se rend pas compte de quoi je parle. Enfin, qu'est-ce qui est dit là ? Que la Torah est révélée en hébreu. Et que celui dont ce n'est pas la langue, eh bien, ne peut rester qu'à une surface de traduction. Et vraiment, qui trahit complètement de quoi il s'agit. Au point que nous, les Juifs, qui sommes les héritiers des Hébreux, on a fini par tomber dans cette fantasme, phasmagorie, c'est de croire que étudier, ça veut dire traduire. Parce qu'effectivement, il faut un effort considérable pour arriver à se remettre dans le texte hébreu. Alors c'est là qu'il faut commencer à étudier. Mais beaucoup de juifs croient qu'étudier, c'est d'être capable de traduire. Je ne sais pas si vous voyez la chute. Okay. Alors que la Torah était donnée aux Hébreux, dont c'était la langue. La génération du désert, imaginez que quand ils leur dit qu'il faut étudier la Torah, ça voulait dire qu'il faut traduire en hébreu. L'invraisemblance. Bien. Alors, on va étudier cette différence entre être en avant-garde de Hachem, annoncer, déchiffrer, défricher ce que Hachem va dire, pour que ça soit entendu. Et ça, c'est la capacité d'Abraham. Et puis être à côté de Dieu plutôt qu'à côté des hommes impies. Et nous allons voir un cas où le Midrash va être impitoyablement négatif pour cette attitude, mais tout en étant, je vais vous dire, laudatif, Sheva. Pas laudatif, mais vis-à-vis de ce type de tzadikim, qui sont quand même des tzadikim et des tzadikim stériles, si j'ose dire. Alors vous allez prendre au chapitre 4, je suppose. 5. Non, attendez. Je vous dis. Chapitre 5. De Bereshit au verset 24. Voilà, dans la lignée de Chet, l'histoire de Hanoch. Hanoch était un des grands justes de l'humanité. Il y a aussi un Hanoch dans la lignée de Caïn, mais c'est une toute autre lignée et c'est un tout autre Hanoch. Ne confondez pas. Et alors, dans les Bibles en français, vous avez ici une Bible en texte français ? Okay. Vous allez lire au verset 24.
Enoch marchait avec Dieu.
Enoch. Alors faites attention. Il y a une erreur. C'est pas une erreur, mais une impropriété phonétique. Il y a un autre personnage qui est le fils de Shem et qui s'appelle en hébreu Enoch. Et alors, quand on vous traduit pour Hanoch, Enoch, beaucoup de gens croient qu'il s'agit de ce même Enoch. Je voulais vous dire, c'est Hanoch. Vaïta le Hanoch et Elohim, et Hanoch se conduisait avec Dieu. Vous voyez la même expression qu'avec Noach, Ken, et Elohim est avec Noach. Venez-nous, il n'était plus là, qu'il a kahoto Elohim, car Dieu l'avait pris. Alors là, c'est le premier modèle de ce qu'on pourrait appeler l'ascension de Hanoch. Et on ne se rend pas compte. Et qui c'est Hanoch, et personne n'en parle. Alors, mais le mystère, c'est ce mot de Vénénou. Et subitement, il n'était plus là, parce que Dieu l'avait pris. Il y a trois personnages que Dieu a pris dans l'histoire des hommes. C'est Hanoch, c'est Moshe, et c'est Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire, ils sont passés vivants de ce monde-ci, ou si j'ose dire, au monde là-bas, le Olam là-bas. Eh bien, avec trois niveaux différents de vertu, ce sont donc des personnages exceptionnels. Il n'y en a que trois, hein, il n'y en a pas quatre. Bon. Son corps. Oui, on ne connaît pas où. Mais de toute façon, si je dis. Et vous savez que les saints sépulcres sont vides. Vous avez compris, si je dis. Il n'y a personne. Alors en tout cas, pour revenir, c'est-à-dire nous allons voir Rachid. Qu'est-ce que Rachid dit sur ce verset?